Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comment devient-on raciste? Marlon Brando affirmait que les gens ont des peurs inconscientes et des angoisses mal définies et ils s'y accrochent comme une moule à son rocher. Ils sont bourrés de préjugés, ils accumulent de la haine, bien rangés dans un petit coin. Ils ne veulent pas qu'on la balaye cette haine avec des arguments logiques. Eh bien, nous allons tenter ce matin d'opposer de la rationalité, des arguments logiques et de la science face aux stéréotypes racistes, xénophobes et antisémites. Nous décortiquerons les trois composantes essentielles du racisme, la catégorisation, la hiérarchisation et l'essentialisation. Nous verrons comment fonctionnent les stéréotypes racistes et pourquoi certains y adhèrent au point de commettre des actes racistes. Et puis n'oublions pas une chose fondamentale, le racisme n'est pas une opinion mais un délit, un crime contre notre humanité, une et indivisible. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
On s'efforce, nous, pauvres scientifiques, depuis longtemps, de dire que l'origine de l'humanité est unique, c'est-à-dire que tous les humains de la Terre sont frères et sœurs, et que cette origine est africaine, en plus, c'est-à-dire que cette origine est colorée. Et nous, nous sommes des décolorés par rapport aux premiers humains. On est tous noirs à l'origine. C'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de le redire,
de s'en souvenir,
de le matraquer, mais c'est difficile à faire passer. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes ce que l'on appelle des Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire que nous sommes du genre Homo, c'est-à-dire du genre humain d'abord, de l'espèce sapiens, c'est le premier sapiens, et de la sous-espèce sapiens, c'est-à-dire de la race sapiens. Nous sommes tous du même genre, de la même espèce, de la même race. Donc, qu'on arrête ces bêtises.
Le paléoanthropologue Yves Coppens, en 2013, dans La Tête au Carré sur France Inter. Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour.
Vous êtes professeur en anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonjour Carole Reynaud-Paligaud.
Bonjour.
Vous êtes historienne et sociologue à l'Université de Bourgogne et de Paris et vous publiez chez Casterman avec Ismaël Méziane « Comment devient-on raciste ? Comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en préserver ». Et vous avez publié en poche chez Champs « On vient vraiment tous d'Afrique, des préjugés au racisme, les réponses à vos questions ». Bonjour Henrik Barbillon.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychosociologue, fondateur de Cénacle, un cabinet de conseil d'audit et de formation spécialisée dans les relations humaines au travail. Et vous publiez « Les filles sont nulles en maths », c'est évidemment faux, les filles sont nulles en maths
préjugés.
Et autres préjugés, sous-titrés « Stéréotypes, préjugés, discrimination, ne vous laissez plus berner par votre cerveau ». Evelyne Heyer, Carole Reynaud-Paligaud, on ne naît pas raciste, on le devient ?
Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment clair, c'est vraiment une construction. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime à dire, une des plus belles fake news depuis 200 ans qu'on trimballe dans nos sociétés. Mais c'est effectivement des mécanismes qui font que l'on va devenir raciste.
Carole Paligaud-Reynaud.
Oui, ça se construit dans la société, c'est-à-dire que des stéréotypes circulent et on les emprunte, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et tout cela, eh bien, détermine nos représentations et nos actes aussi.
Quels sont les fondements scientifiques du racisme ?
Il y a trois composantes dans le racisme. Catégoriser, c'est-à-dire on met des gens dans des boîtes. Alors le cerveau marche comme ça, hein. On met les chaises dans des chaises, les tables dans la boîte table. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de catégorie naturelle. C'est-à-dire en fonction de la société, on choisit de mettre les gens dans des groupes différents. Avant c'était les religions protestants catholiques, après ça a été la couleur de peau, etc. Donc on catégorise, mais ça jusque-là ça va. Après on hiérarchise, on dit qu'il y a certaines boîtes qui sont meilleurs que d'autres. Et là, on commence à avoir des problèmes. Et à la fin, surtout, on essentialise. C'est-à-dire, on ferme les boîtes, on dit que l'essence des individus est déterminée par ce qu'ils sont dans cette boîte-là. Comme tu es dans telle boîte, c'est-à-dire comme tu es noir, tu es comme ça. Comme tu es blanc, tu es comme ça. Comme tu es une fille, tu es comme ça.
On va revenir sur ces trois notions clés, mais je voulais juste vous demander s'il y a des fondements scientifiques au racisme. Est-ce que le racisme peut s'expliquer scientifiquement ? Est-ce qu'il y a des bases scientifiques, Carole Reynaud-Paligaud ?
Non, enfin...
Est-ce que ça se justifie, le racisme, par des fondements scientifiques ?
Non, ça s'explique par la société dans laquelle on vit, qui produit des représentations et qui peut inciter l'individu à voir les différences, à les creuser... Ou au contraire, à dire que ces différences, mais d'abord on les voit pas, ou alors on les trouve enrichissantes. Voilà, donc l'individu lui-même, il peut réagir de manière très différente. Et ce qui le détermine, eh bien, c'est la société dans laquelle il vit. C'est-à-dire les usages qu'on va faire, alors les usages politiques, souvent, qu'on va faire de ces représentations, de ces stéréotypes.
Et d'où vient la race, alors, Evelyne Meyer?
En fait, selon les historiens, ça a des histoires plus ou moins anciennes, mais l'idée de race qui nous concerne, nous, c'est surtout au niveau des scientifiques du XVIIe, XVIIIe siècle, au moment où on se met à classer la nature, les animaux, les plantes, on voit de la diversité humaine et on se met à les classer et on les classe dans des groupes qu'on appelle des races. Mais en tant que tel, ça, ce serait pas gênant. Il y a de la diversité d'apparence, tout le monde la voit, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'on calque tout de suite sur ces groupes-là, de la hiérarchie et de l'essentialisation.
Quelle est votre définition précise du racisme ?
La définition précise du racisme, elle est écrite dans le livre, mais grosso modo, c'est de considérer qu'il y a des différences immuables chez les gens qui, finalement, justifient une domination et justifient une hiérarchisation qui peut déboucher sur des actes racistes.
Je vous cite, le racisme consiste à considérer les différences entre individus, qu'elles soient physiques ou culturelles, comme héréditaires, immuables et naturelles. Il établit une hiérarchie entre les catégories d'êtres humains. Il peut se traduire par des sentiments, des actes, allant de la discrimination jusqu'à l'extermination de l'autre. Alors, j'aimerais qu'on revienne là sur les trois notions fondamentales, la catégorisation, la hiérarchisation et l'essentialisation. La catégorisation, d'abord, elle est bien commode, elle permet de rendre compréhensible une réalité très complexe, Henrik Barbillon.
Oui, tout à fait. Le monde dans lequel on vit est extrêmement complexe et on a besoin de le simplifier. Et un des moyens commodes pour le simplifier, c'est de mettre des gens dans les catégories.
Alors, dans des boîtes.
Dans des boîtes, exactement. Mais par contre, une boîte, une catégorie n'aurait pas de sens si elle était vide. Donc on vient y plaquer notamment un certain nombre de stéréotypes. Voilà.
Mais
donc,
il est naturel de catégoriser, mais les catégories ne sont pas naturelles.
Mais les catégories ne sont pas naturelles, tout à fait.
Tout à fait, c'est vraiment tout à fait ça. Et c'est pour ça que naturellement, si par exemple vous prenez le métro le matin, comme ça arrive en région parisienne, vous avez une grande diversité de gens. Essayez de réfléchir à comment vous les catégorisez. Vous pouvez prendre ceux qui téléphonent, ceux qui ne téléphonent pas, ceux qui sont assis, ceux qui sont debout, ceux qui sont de telle couleur de peau ou pas, etc. Mais inévitablement, votre esprit, il va faire des boîtes.
Carole Reynaud-Paligo.
Oui, mais tout cela, ça s'inscrit dans l'histoire. Si on remonte quelques siècles en arrière, on a vu cette notion de race qui a émergé dans le monde des savants parce qu'ils avaient l'ambition de classer le monde, de classer les plantes, de classer les animaux. Et puis finalement, pourquoi pas classer aussi cette diversité humaine qu'ils pouvaient observer. Donc ils ont utilisé cette notion de race en attribuant à des groupes des caractéristiques physiques qu'on pouvait observer, mais aussi des caractéristiques culturelles, morales, psychologiques. Avec toute cette dans un contexte de très forte hiérarchisation et de domination, on a abouti à des stéréotypes coloniaux qui circulent encore en partie aujourd'hui.
Alors il existe des biais qui affectent notre façon de catégoriser. J'aimerais qu'on prenne des exemples concrets. Autour de la table, nous sommes d'accord pour dire que les Français sont différents les uns des autres. C'est une évidence. Mais autour de la table, nous pourrions aisément penser que tous les Chinois se ressemblent physiquement. Et des touristes chinois de passage à Paris pourraient penser exactement la même chose. Ce type de raisonnement superficiel conduit à établir des catégories simples et simplistes qui conduisent à des stéréotypes. Par exemple, les Asiatiques sont petits, les Africains sont athlétiques ou les Américains sont obèses. Henrik Barbillon.
Tout à fait. Et c'est bien commode parce que lorsque je suis confronté à un individu que je ne connais pas, mais qui possède une caractéristique d'une catégorie que je connais, par exemple un Chinois, je vais pouvoir adapter mon comportement en fonction de ce que j'imagine être le comportement le plus adapté.
Et alors, qu'est-ce qu'un stéréotype ?
Alors, qu'est-ce qu'un stéréotype ? On va dire que c'est une étiquette. C'est une sorte de personnalité que l'on attribue à une catégorie donnée. Et ce stéréotype sera ensuite décuplé à l'ensemble des personnes qui appartiennent à cette catégorie. Donc si je dis par exemple que les Italiens parlent avec les mains, le moindre Italien que je vais croiser, je vais plutôt le voir un peu plus que les autres parler avec les mains, parce que je vais avoir une attention sélective sur cette information, sur ce comportement.
Carole Reynaud-Paligo.
Oui, mais ces stéréotypes, ils ont aussi une histoire. C'est-à-dire qu'ils ont été forgés à un moment donné où, en général, il y avait une histoire de domination derrière. Donc, la période coloniale a créé beaucoup de, a produit parce que dans toute entreprise de domination et notamment coloniale, pour mieux dominer, on a besoin de dévaloriser ce qu'on domine pour justifier ce qui n'est pas toujours justifiable moralement ou même politiquement à une époque où on construit la République. Donc voilà, c'est aussi cette, je pense qu'il faut faire l'histoire des stéréotypes pour mieux les comprendre et pour mieux s'en débarrasser.
Alors à quoi servent les stéréotypes? Selon les chercheurs Gordon Allport et Jérôme Brunner, les stéréotypes sont une conséquence naturelle du fonctionnement de notre système cognitif et de notre incapacité à traiter la quantité d'informations qui nous parvient.
Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, le monde est très complexe et nous avons besoin de simplifier cet environnement. Alors effectivement, en fonction des sociétés et en fonction des époques...
Ça nous simplifie la vie.
Ah, ça nous simplifie la vie, totalement, oui, totalement. Mmh. Mais par contre, c'est aussi le reflet d'une société, effectivement, et par rapport à des bases, à des grilles de lecture qui sont déjà préexistantes, qui vont nous permettre de catégoriser les individus selon des grilles de lecture religieuses, par exemple.
Alors le stéréotype, c'est donc un ensemble de croyances à propos d'un groupe social. Le problème, c'est que toutes ces croyances sécrètent des filtres entre la réalité et la perception que l'on se fait de la réalité. Ces filtres déforment cette réalité et renforcent notre attention sur certaines choses.
Tout à fait. La réalité que nous percevons n'est pas la réalité telle qu'elle existe. Nous allons sélectionner des informations en fonction de nos grilles de lecture préexistantes, et on peut considérer que les stéréotypes sont des grilles de lecture, et nous allons aussi adapter notre comportement en fonction de ce que nous percevons. Donc nous créons aussi la réalité sur la base de nos représentations.
Alors si nous pensons par exemple que tous les Noirs sont athlétiques, il suffira de citer de bons athlètes, d'excellents athlètes, des génies comme Carl Lewis, Michael Jordan, Tony Parker ou Mohamed Ali pour confirmer nos stéréotypes.
Tout à fait. Nous allons sélectionner dans l'environnement des informations qui sont rendues saillantes et qui permettent de confirmer les stéréotypes.
Alors le problème avec un stéréotype, c'est qu'il est rigide et qu'il résiste très bien à l'épreuve des faits.
Tout à fait. Même à l'épreuve de l'argumentation, un argument qui va à l'encontre d'un stéréotype donnera très certainement lieu à un contre-argument qui prendra appui sur des exemples concrets que l'on peut voir dans l'environnement. Mais ces exemples, bien évidemment, ne représentent pas la réalité telle qu'elle est, mais une portion de la réalité telle qu'elle est perçue par la personne raciste.
Un exemple concret, si je pense que vous le disiez, tous les Italiens parlent fort avec les mains. Si j'en croise 10 qui ne parlent pas fort avec les mains, j'aurais quand même du mal à adhérer au stéréotype de l'Italien qui gesticule beaucoup. Je vais quand même y adhérer, même si je vois des contre-exemples autour de moi.
Sauf si je ne le vois pas, ces contre-exemples, parce que du coup, il n'attire pas mon attention. Ouais. En revanche, l'individu qui correspondra à mes stéréotypes attirera particulièrement mon attention et me permettra de valider ce stéréotype.
Alors, quels sont les processus mentaux qui construisent et surtout maintiennent les stéréotypes?
Déjà, il y a l'expérience sur le terrain, effectivement, sur la base de nos stéréotypes, à savoir de nos catégorisations, nous allons évoluer dans un environnement de manière spécifique. Par exemple, si je croise un individu appartenant à une catégorie qui est plutôt valorisée socialement, eh bien, je vais adapter mon comportement en étant peut-être plus chaleureux, et ce climat relationnel va conduire l'individu qui est en face de moi à lui-même être un peu plus chaleureux. Donc, finalement, on est sur un processus qui est aussi relationnel, puisque mes représentations vont conditionner mon comportement, qui vont conditionner aussi le mode relationnel que je vais inscrire vis-à-vis des personnes, et ces personnes vont s'inscrire dans ce mode relationnel. Donc finalement, la boucle est bouclée et je crée moi-même la réalité qui me permet de confirmer ces stéréotypes.
Alors pourquoi une personne raciste a du mal à abandonner ses stéréotypes racistes? Pourquoi c'est si difficile?
Parce qu'il y a une dimension identitaire aussi. Nos stéréotypes renvoient notamment à une société dans laquelle nous vivons, et puis aussi à des valeurs familiales, par exemple, ou à des valeurs associées à un groupe d'appartenance. Et à partir du moment où j'abandonne ces stéréotypes, eh bien, je m'éloigne des valeurs et des normes portées par mon groupe d'appartenance, avec un risque de marginalisation.
Alors oui, et je rajouterais aussi que c'est une simplification du monde qui est bien commode. On sait, c'est la faute à qui? Si quelque chose ne va pas. Donc il y a aussi le côté, ça simplifie et ça permet de ne pas se remettre en question, parce qu'on a finalement son bouc émissaire.
Carole Reynaud-Paligo.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça simplifie l'explication du monde. On trouve des explications toutes simples et toutes très séduisantes et très faciles. Et c'est là qu'on a un défaut sans doute dans l'éducation, hein, parce que il faudrait éduquer aux stéréotypes, à la lutte contre les stéréotypes et montrer que la réalité sociale elle est plus complexe. En fait, nous chercheurs, on le fait tous les jours dans nos laboratoires, dans nos revues, mais après ça se diffuse pas très bien dans la société.
Pourquoi ?
Ah, ça, il faut poser la question aux journalistes.
Ou aux psychologues sociaux, tiens, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a répondu, parce que c'est bien commode, et que l'on n'a pas forcément envie de voir des choses un peu plus complexes, alors que cette simplification nous convient parfaitement.
Oui, mais attention, ça bouge, hein, parce que par exemple, les stéréotypes de genre, on voit quand même dans nos sociétés, ils bougent. Et même les stéréotypes racistes, ils ont tendance à bouger. On n'a pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Il y a la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui mesure le niveau de tolérance de la société française, et depuis 30 ans, la tolérance n'augmente régulièrement. Donc on voit bien que quand même les choses bougent. Hein.
Pourquoi chez certains les stéréotypes ne se transforment pas en préjugés racistes ?
Alors, stéréotypes et préjugés sont liés parce que sur la base des stéréotypes...
C'est quoi la différence d'ailleurs ?
Alors, un stéréotype, c'est une étiquette, on va dire, c'est un élément de définition. Et sur la base de cet élément de définition, je vais préjuger, donc je vais juger à l'avance d'un certain nombre de traits caractéristiques de la personne.
Par exemple,
les filles sont nulles en maths, donc du coup, elles vont échouer plus facilement à un examen. Donc on est plutôt dans quelque chose de concret.
D'ailleurs, il y a des expériences qui ont montré que quand on demandait à des groupes de garçons et de filles à l'école de dessiner des dessins très complexes, les garçons et les filles le faisaient très bien, mais dès qu'on leur disait aux filles que c'était des figures géométriques, là, il y avait de l'échec.
Tout à fait, hein. C'est stupéfiant comme expérience. Il y en a eu d'autres, hein, où on partageait dans des classes des enfants en des bons et des mauvais, et on disait en début d'année, ben tiens, ça c'est un bon, ça c'est un mauvais, mais on les avait distribués au hasard, et à la fin de l'année, les bons étaient meilleurs, et les moins bons étaient moins bons. C'est-à-dire, on assimile ces stéréotypes, et finalement, on devient ce que l'on attend de nous de ces stéréotypes. Et c'est pour ça que c'est grave.
Ça s'appelle des prophéties autoréalisatrices.
Alors, dans un cas, oui. Effectivement, lorsqu'on parle de l'effet Pygmalion, par exemple, l'étude de Rosenthal et Jacobson, dans lesquelles, justement, c'est ce qu'expliquait Evelyne, je crois, dans lesquelles des psychologues, des chercheurs sont venus, ont fait passer un test d'intelligence, et sont revenus quelques semaines plus tard en indiquant qu'un certain pourcentage, 20% d'entre eux, étaient plus intelligents que les autres. Ces résultats est totalement dû au hasard, c'est-à-dire que la distribution était vraiment liée au hasard. Et au fur et à mesure des mois, on s'est rendu compte que ces élèves performaient davantage. Tout simplement parce que les enseignants, convaincus que ces élèves étaient meilleurs, modifiaient leur comportement vis-à-vis de ceux-ci, en les interrogeant un peu plus, en étant peut-être plus conciliants dans la correction de copies.
Je voulais juste ajouter un autre exemple. On pourrait en prendre beaucoup, mais il y a celui des Africains-Américains aux États-Unis. Quand on leur fait faire des tests et qu'on leur annonce que c'est un QI, un test de quotient intellectuel, ils réussissent moins bien que si on leur dit que c'était un exercice banal. Donc on voit bien comment, là, c'est la menace du stéréotype, hein, la pression de la société avec depuis le début du XXe siècle, ces fausses études scientifiques qui tendent à dire que l'intelligence des Africains-Américains serait moindre que celle des Blancs, fait perdre confiance à l'individu et du coup il réussit moins bien sa performance.
Donc on voit c'est des deux côtés, vous avez à la fois le stéréotype est renforcé par l'extérieur, donc là dans le cas des enseignants on leur a dit qu'ils étaient bons donc ils vont être plus indulgents, mais en même temps c'est intégré à l'intérieur de la personne. Si on me dit sans arrêt que je suis nul, je vais le devenir.
Alors, est-il vrai que les très jeunes enfants n'ont pas d'a priori, de stéréotypes ou de préjugés envers les autres enfants ? Et à partir de quel âge les enfants changent-ils sous l'influence de leur environnement ? Henrik Barbillon.
Alors oui, les enfants ne naissent pas avec des a priori, puisqu'ils découvrent avec un œil naïf leur environnement. Ils sont très curieux de la différence des autres, mais ne vont pas forcément catégoriser.
C'est ce que disait Evelyne hier, on ne naît pas raciste.
Voilà, on ne naît pas raciste. À partir d'un certain âge, où là, effectivement, il faudrait peut-être demander à des psychologues de l'enfance, on commence à voir un besoin de catégorisation, mais qui est corrélé aussi à une vision beaucoup plus complexe de l'enfant. À partir du moment où il complexifie sa perception, il entre dans la nécessité de le simplifier, de simplifier cet environnement. Voilà.
On est tous potentiellement racistes.
Alors là, moi, je dirais non, mais...
On est tous potentiellement non-racistes aussi. Mm-hmm. En fait, ce que les études que montrent, que font les sociologues, c'est montrent aussi que les valeurs familiales comptent beaucoup. Mm. La socialisation familiale, c'est là qu'on intériorise des valeurs. Et selon si on a des valeurs antiracistes ou des valeurs racistes qui sont transmises, eh bien, ça va en grande partie déterminer ce qu'on va devenir après.
Bonjour, Lynn. Bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Et quelle est votre question?
Merci, monsieur Ali Rebéi. Et merci à tous vos invités.
Merci.
Donc, Yves Coppens, que j'ai cru entendre tout à l'heure.
Oui, c'est Yves Coppens. Oui.
Voilà, je lis Origine de l'homme, Origine d'un homme. C'est vraiment sensationnel.
Quelle est votre réflexion ou votre question?
La question que je voulais poser, c'est comment ne pas devenir raciste? Est-ce que c'est une question d'éducation et vers quel âge? Est-ce que c'est une question de voyage ou au contraire, est-ce une question de ne pas du tout voyager, de rester dans son petit coin, dans sa petite commune? Et auquel cas, ben, finalement, c'est la peur qui envahit peut-être des personnes qui ne bougent pas, qui ont peur, une peur irraisonnée. Voilà ma question.
C'est très bien. Et un auditeur nous dit « La peur me semble le pire ennemi pour produire du racisme ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Hendrick Barbillon?
Alors, on peut évoquer notamment cette question du voyage, parce que si je reprends ce processus de simplification, à partir du moment où je dis tous les Chinois sont comme ceci, mais c'est parce que je ne connais pas les Chinois. À partir du moment où j'entre à la découverte, notamment d'une population, d'une catégorie, eh bien, je me rends compte qu'au sein de cette catégorie, il y a des différences extrêmement importantes. Ce qui fait que le préjugé ne peut plus tenir. Alors, effectivement, on pourra ensuite caler des préjugés, des stéréotypes sur d'autres sous-catégories, mais la connaissance des catégories permet de limiter le racisme.
Comment ne pas devenir raciste? Demande Lynn, Evelyne Hillier.
Moi, je dirais, c'est de sortir l'individu de sa catégorie, c'est-à-dire au lieu de penser à un individu dans sa catégorie, de prendre le temps d'aller vers lui, de le connaître, et de redonner à chaque individu son individualité et finalement ses identités multiples qu'il peut mettre en avant.
Carole Reynaud-Paligo.
Oui, c'est chercher à comprendre si on véhicule des stéréotypes ou pas, essayer d'être attentif à tout ça, et puis essayer aussi de s'instruire, de mieux connaître les autres cultures, parce que le voyage, si c'est un voyage très superficiel, ou comme on en voit beaucoup, où finalement on rencontre pas, où on discute pas avec les personnes différentes, je pense pas que ça apporte beaucoup, et on voit bien dans l'évolution de l'anthropologie, quand les anthropologues restaient chez eux et imaginaient des représentations à partir de lectures, de comptes rendus de voyages, de missionnaires, etc. Là, les préjugés restaient. Et puis, quand les anthropologues, dans les années 1930, sont partis s'installer et vivre avec les populations, je pense notamment à Denis Paulme au Mali, qui a vécu parmi les Dogons, et qui a dit, mais les sauvages qu'on croyait, c'est pas les Dogons. Les Dogons, ils ont une richesse culturelle extraordinaire. Les sauvages, ce sont les Blancs qui sont là, et qui sont alcooliques, et qui se comporte pas correctement. Donc voilà, c'est la réalité, le prendre le temps de connaître les autres, ça remet en cause les préjugés.
Hendrick Barbillon.
Oui, ça permet également une dilution notamment des catégories. À partir du moment où je considère que cette femme est noire, mais qu'elle est également magistrate et qu'elle fait du piano, ça permet notamment de multiplier les catégories et donc de limiter l'impact d'une catégorie stigmatisante. Et par ailleurs, j'ajoutais aussi quelque chose sur l'éducation. Les stéréotypes, à partir du moment où ils existent, que l'on y adhère ou pas, peuvent avoir un impact sur l'individu, sur son comportement. Donc il y a une part aussi de l'éducation qui est très importante, d'apprendre à comprendre ces stéréotypes, l'impact qu'ils peuvent avoir, et donc là effectivement il y a peut-être un rôle de l'école.
Merci beaucoup Lynn de nous avoir appelé. Moi je pense qu'on est potentiellement raciste. Moi j'aime bien cette phrase de Simone Veil, la philosophe, tous nos monstres sont en nous, mais l'idée c'est de s'empêcher, comme le disait Camus, un homme ça s'empêche, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça Hendrick Barbillon, c'est de s'empêcher de justement laisser libre cours à ces stéréotypes, ces préjugés racistes.
On parle aussi de racisme aversif, ce sont des personnes qui ne sont pas racistes, qui n'adhèrent pas forcément à des croyances, mais dans un environnement un peu ambigu, incertain, eh bien vont mobiliser ces éléments de croyance pour pouvoir interpréter la réalité. réalité. Effectivement, je ne suis pas raciste, mais entre une quand je vois deux personnes arriver à l'hôpital en blouse blanche, à qui je vais dire bonjour, docteur, à la personne qui est noire de peau ou à la personne qui est blanche? Eh bien, certaines personnes vont plutôt aller vers la personne qui est noire de peau.
La fameuse phrase "Je ne suis pas raciste".
Je ne suis pas raciste, mais effectivement.
Dans quelques instants, on s'intéressera à la formation des préjugés racistes. En attendant, on écoute Jacques Dutronc, Les Cactus. Jacques Dutronc, Les Cactus.
Il paraît que Dieu, il a dit...
Grand bien vous fasse.
Il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes grands.
Ali Rebéi.
Il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux.
Sur France Inter.
Et ça sera pas facile.
Ça marche toujours, cette phrase de Coluche. 10h34, comment devient-on raciste? C'est la question que nous posons ce matin à nos invités, anthropologues, historiens, psychosociologues. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Mais écoutez, là aussi, c'était assez incroyable parce que j'étais à l'école à Bois-Colombes. Et à l'époque, il y avait un dessin animé où est-ce qu'il y avait une vache noire qui s'appelait la Noiraude. Et une vache blanche qui était blanchette. La vache blanche était très intelligente et la vache noire très stupide. Donc les enfants m'appelaient la Noiraude et ça m'attristait. Et donc je rentrais à la maison, je posais des questions à ma maman. Mais malheureusement, elle n'a pas eu les bonnes réponses en me disant « Oui, bah, tu sais, c'est comme ça, ça va jamais changer, tu sais. » Et donc j'étais attristé. Et c'est petit à petit que j'ai compris justement que ce racisme était lié à notre histoire et que c'était un racisme culturel lié à l'histoire du passé. Et je crois que la première des choses, c'est comprendre le mécanisme du racisme. Comprendre pourquoi ça existe. Parce que aujourd'hui, le racisme chez certaines personnes, c'est de l'ordre émotionnel. C'est-à-dire, on pense que c'est naturel. Non, c'est pas naturel le racisme, c'est une construction politique et culturelle. Et donc, on peut déconstruire. Par exemple, on a tendance à enfermer l'autre dans sa couleur de peau. Lorsque je vais dans les écoles, discute avec les enfants, ils m'expliquent qu'il y a plusieurs races qui seraient déterminées par la couleur de peau. Donc, je leur explique que non, qu'il y a l'Homo sapiens. Et je leur dis, voilà, il ne faut pas passer par la couleur de peau pour déterminer les qualités ou défauts de quelqu'un. Mais il n'y a pas que les enfants qui passent par la couleur de peau pour déterminer certaines personnes. Par exemple, aujourd'hui, on peut utiliser des termes comme minorité visible. D'accord ? Mais s'il y a une minorité visible, il y a une majorité invisible. Et donc la majorité invisible serait les personnes de couleur blanche. Et la minorité visible serait les personnes de couleur non blanche. Donc on voit bien qu'il y a toujours ce clivage autour de la couleur de peau. Et souvent, malheureusement, les gens ne savent même pas pourquoi il y a des couleurs de peau différentes.
L'ancien footballeur Lilian Thuram, dans le tête-à-tête sur France Culture en 2012. Votre regard sur ces propos, Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique?
Alors, j'adhère tout à fait. Moi, je pense qu'on ne n'est pas raciste, mais on le devient. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire on préfère son groupe. C'est-à-dire, si vous faites des catégories, vous faites des groupes, ben, votre groupe, vous allez le trouver un peu mieux que celui d'à côté. Mais ça justifie pas forcément d'aller jusqu'à du racisme. Je veux dire, les sociétés humaines, on voit dans l'histoire qu'il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu des mélanges, et on voit bien que ces mélanges sont incompatibles avec le fait que l'on aurait été raciste dans notre histoire.
Carole Reynaud-Paligaud, historienne et sociologue.
Oui, il n'y a pas de fatalisme. Je crois que ça se construit à certains moments donnés, que l'homme, il est capable du pire, mais aussi du meilleur. Donc, rien n'est prédéterminé à l'avance. Et tout se construit dans des contextes historiques spécifiques. Et c'est ça qu'il faut, comme le dit Lilian Thuram, chercher à comprendre pour mesurer aujourd'hui nos héritages et les dépasser.
Henrik Barbillon, psychologue social.
Oui, certaines sociétés donnent une place au racisme, effectivement. D'autres ne le tolèrent beaucoup moins. Donc finalement, ces questions de racisme s'inscrivent aussi dans un contexte bien spécifique, historique et sociétal.
J'aimerais qu'on revienne à votre livre « Comment devient-on raciste ?» Carole Reynaud-Paligaud, Evelyne Heyer. Ce qui est très malin, en fait, c'est que vous utilisez des personnages bleus, verts, violets, et il profère des choses complètement absurdes. Et après, on peut plaquer ça aussi dans notre réalité sociale. C'est ça qui est très très fort dans votre livre, Evelyne Heyer.
Ah bah c'est le dessinateur, hein, ouais, c'est Ismaël Méziane, c'est qui a eu ses idées. On a beaucoup discuté avec lui, mais je dirais que toute la création sur la manière de faire passer le message, c'est lui. Et cette BD est géniale. Hein. J'ai eu la chance de rencontrer plein de lycéens à qui j'en ai parlé. J'ai présenté ce qu'il y avait dedans et ça marche, quoi. Les gens comprennent bien, ils sont vraiment contents.
Par exemple, il y a un personnage vert qui dessine un tableau en toute objectivité. Donc il y a des cases, il y a les violets, les bleus, les oranges, les verts. Alors les violets, ils sont bêtes, violents et méchants. Les bleus sont stupides, radins et riches. Les oranges sont voleurs, cruels et sadiques. Tandis que les verts, celui qui a dessiné le tableau, sont gentils, drôles et intelligents. Et là, en une case, on voit l'absurdité absolument
totale. On voit
totale
l'essentialisation.
L'essentialisation et l'absurdité du racisme.
Bah oui, c'est vraiment absurde. Enfin, je veux dire, ça s'est basé sur des catégorisations sur lesquelles on a plaqué des caractéristiques. Mais relisez les textes de Linné du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est affolant, quoi. Et on trimballe encore ça.
Rappelez qui était Carl Linné.
Oh, pardon. Carl Linné, c'était un grand savant du XVIIe siècle qui a entrepris de classer toute la nature. Donc, il a classé les plantes, les animaux. Notre classification de la nature est encore basée sur ce qu'il a fait. Et il s'est bien sûr pencher sur classer la diversité humaine.
Carole Reynaud-Paligaud.
Oui, tout le talent d'Ismaël, c'est d'allier son histoire personnelle et ses souffrances, parce que quand on appartient à un groupe qui est stigmatisé, eh bien, évidemment, c'est douloureux. Mais aussi, ces petits bonhommes très pédagogiques, et puis l'histoire, la société dans laquelle il vit, qui lui permet de comprendre pourquoi il a certains stigmates ou certaines réactions.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur les préjugés, Henrik Barbillon. Quelles sont les grandes composantes d'un préjugé ? Il y a une, vous l'expliquez dans votre livre, une composante cognitive, une composante affective et une composante comportementale. Pouvez-vous nous expliquer à partir d'exemples très concrets ? Par exemple, si composante cognitive, je considère que les chiens sont dangereux. Voilà.
Oui, tout à fait.
C'est un préjugé.
Alors déjà, le préjugé est une attitude. Voilà. Une attitude qui est composée de trois pôles. Donc, les chiens sont dangereux, c'est la sphère cognitive. C'est ce que je pense. Mais je ne pense pas ça pour rien. Je pense ça parce qu'il y a bien un sens. Ce sens peut être, par exemple, affectif, parce que j'ai peur des chiens. Et d'un point de vue comportemental, eh bien, je ne vais pas m'approcher d'un chien, ou si un chien s'approche de moi, eh bien, je vais reculer. Voilà. Et il y a toujours ces trois composantes dans un préjugé.
Et on peut, évidemment, plaquer ça sur dans la vie de tous les jours. Moi, il m'est arrivé arrivé de croiser des personnes qui, me voyant approcher, rapprochent leur sac de je sais pas, ils pensent que je vais peut-être les voler. Mais donc voilà, composante cognitive, ils considèrent que je suis peut-être dangereux et un voleur potentiel. Conséquence, composante affective, j'ai peur des noirs ou des étrangers en général. Et la composante comportementale, c'est mon sac, je le rapproche de moi ou je voilà parce que j'ai tout peur que ou je fuis ou je voilà. C'est ça, grosso modo, et à grands traits. Hein.
Et la porte d'entrée n'est pas toujours cognitive, c'est-à-dire que c'est pas toujours rationnel. C'est parce que j'ai peur ou parce que je me sens inconfortable dans une situation ou face à une personne que je vais y attribuer un sens. Je ne vis pas un inconfort pour rien. Je vis un inconfort parce qu'il y a bien une raison.
Evelyne Ayer.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on voit bien comment on crée les catégories, entre guillemets, dans certains cas, parce qu'on en a besoin. Donc, on peut avoir une peur et on va créer la catégorie et le préjugé qui va avec. Ou alors, on veut dominer et du coup, on va créer la catégorie comme on veut.
Mais quand on a été agressé, alors on a été agressé par une certaine catégorie de personnes, comment s'empêcher d'avoir des préjugés et de devenir raciste? C'est ça la grande question qui agite notamment les débats politiques et les débats publics aujourd'hui.
C'est la différence entre être agressé par une catégorie ou être agressé par un individu. De dire « je me suis fait voler mon sac à main par telle personne », ok, mais de dire « tous les gens comme cette personne volent des sacs à main », là vous tombez dans le racisme. Et donc c'est assez facile, il suffit de retourner à l'individu. C'est cet individu-là qui m'a volé. Et puis après on peut se poser la question de pourquoi il avait besoin de vous voler. Et après on peut réfléchir à son histoire de vie. Donc en fait, on remet l'individu au cœur de l'événement.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, on pourra vous rétorquer, oui, mais allez dans les maisons d'arrêt, dans les prisons, et regardez quelles sont les catégories de personnes qui peuplent ces prisons. Bon, on va pas vous faire un dessin. Voilà, je reprends la Vulgate, qui est un peu en vogue en ce moment, qui fait Flores. Bon, voilà.
Mais regardez les catégories sociales de ces gens-là, c'est peut-être aussi des gens qui ont moins de possibilités dans la vie, et qui du coup tombent plus facilement vers la délinquance, de un. De deux, il y avait des études qui montraient, par exemple, que si la consommation de cannabis, elle touche toute la société française, c'est toujours les mêmes qu'on contrôle plus pour le fait d'avoir du cannabis. Donc vous avez à la fois un biais de qui on va envoyer en prison ou pas, et vous avez aussi des raisons sociales sur le fait que certains groupes font effectivement plus de délinquance.
Henrik Barbillon.
Oui, c'est toute la différence entre les analyses situationnelles ou dispositionnelles, c'est-à-dire qu'on attribue à un individu une disposition, c'est un voleur. Ou alors on essaye de voir notamment la situation dans laquelle cette personne se trouve et qui l'a conduit à un vol. Et c'est toute la différence.
Alors j'aimerais qu'on aborde d'une notion fondamentale dans le racisme, c'est la hiérarchisation, nous et les autres. Carole Reynaud-Paligaud, comment ça fonctionne la hiérarchisation?
Oui, c'est intéressant d'essayer de là aussi de comprendre pourquoi il y a une hiérarchisation qui se produit. Et là, il faut en repasser par le contexte historique. Pourquoi certains groupes sont plus valorisés que d'autres? Pourquoi d'autres sont dévalorisés? Ça s'inscrit là aussi dans notre histoire. C'est souvent des histoires de domination, de nations sur d'autres, donc de colonisation, mais pas seulement au sein de notre couleur de peau et de notre histoire européenne. Si on regarde ce qui se passe au Japon, on a eu aussi des représentations très dévalorisantes.
Au Rwanda?
Au Rwanda, c'est à l'intérieur de l'Afrique, entre deux groupes qui étaient de même culture et très proches. Et au Japon, une domination coloniale a aussi entraîné une dévalorisation des populations locales qui voulaient dominer. Donc voilà, c'est assez...
Il y a la domination et sinon il y a le nationalisme. C'est quand on veut vraiment être tout seul dans son groupe et surtout pas se mélanger. Vous avez soit domination, soit nationalisme, et quand c'est le nationalisme, là, vous faites une hiérarchisation extrême de votre groupe par rapport aux autres, et quand vous voulez dominer, aussi, vous rabaissez les autres pour mieux les dominer.
Oui, donc aujourd'hui, on est en partie dans cet héritage colonial ou néo-colonial, où il y a toujours des histoires de domination, de nations qui sont un peu plus valorisées au niveau international et dans les relations économiques et politiques. Et puis, il y a ces idéologies nationalistes qui sont quand même qui reviennent de manière très présente un peu partout dans le monde. Et le nationalisme, par intrinsèquement, il a des valeurs qui cherchent à rejeter l'autre. Et il cultive ça, il entretient ses idées, et voilà, c'est ce qui se produit sur nos antennes aussi en ce moment.
Henrik Barbillon.
Oui, dans cette dimension notamment de hiérarchisation, il y a également une notion identitaire. Si je veux me construire une identité positive, eh bien, il faut que je construise une identité positive de mes groupes d'appartenance. Et ces groupes d'appartenance, pour pouvoir être positifs, eh bien, il faut qu'ils soient un peu supérieurs ou qu'ils aient de meilleurs comportements, de meilleures valeurs que ceux des autres. Ce qui nous permet notamment, enfin, ce qui conduit plutôt à une hiérarchisation assez naturellement.
SGOM.
Est-ce que parler de communauté, par exemple de communauté musulmane, de communauté juive, etc., est-ce que ça sécrète du racisme?
En tous les cas, ça correspond pas à la réalité de la France. Hein. 2/3 des enfants d'immigrés se marient ou forment un couple avec quelqu'un qui n'est pas issu de l'immigration. Donc on est dans une société qui est décrite comme extrêmement fluide en France, contrairement à d'autres sociétés comme aux États-Unis. Ça n'empêche pas qu'il y a des endroits où il y a des gens qui préfèrent vivre entre eux et qu'on peut appeler communauté. Mais en tous les cas, le communautarisme, c'est carrément pas la manière de décrire la société française.
Et y réfléchir, quand on parle de communauté juive, de communautés musulmanes, de communautés roms, ça ne veut rien dire, parce qu'au sein de ces communautés, on retrouve des gens de la classe moyenne, des riches, des pauvres, des conservateurs, des libéraux, des agnostiques, des gays, des lesbiennes, des droitiers, des gauchers, des gens de gauche droitiers, des gens de droite gauchers.
Hein ? Tout à fait. Il y a vraiment tout un mélange dans ce qu'on pourrait mettre comme étiquette autour de communautés.
Tiens, je suis allé sur un site d'extrême droite qui exaltait des hier, je me suis amusé à ça, des origines qui exaltait des origines, les origines aryennes des Européens de souche. Que peut-on dire aux animateurs de ce type de site en s'appuyant sur la recherche scientifique la plus solide? Alors j'ai vu des termes comme voilà, nous sommes supérieurs aux populations négroïdes, etc. Enfin des trucs, je vais pas citer parce que c'est vraiment bon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes qui aiment consulter ce genre de site?
Déjà que dans ses ancêtres, il a forcément des migrants et qu'on vient tous d'Afrique. Donc de toute façon, il a des ancêtres noirs et que en plus, en Europe, on a été noirs très longtemps. C'est juste depuis quelques milliers d'années qu'il y a eu une sélection pour des couleurs de peau plus claires. Donc quelque part, les Européens de souche, entre guillemets, de toute façon, ils sont noirs de couleur de peau.
Et ils avaient les yeux bleus. C'est ce que vous racontez dans votre livre, L'Odyssée des Gènes. Ils étaient noirs aux yeux bleus.
Tout à fait. Donc l'Européen de souche et noir aux yeux bleus. Donc allez-y. Ouais.
Alors j'aimerais qu'on en vienne à une composante importante du racisme. On a parlé de la catégorisation, de la hiérarchisation. Troisième notion clé, l'essentialisation. Expliquez-nous un petit peu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je disais que les violets sont tous bêtes, violents et méchants, les bleus sont tous stupides, radins et riches,
ouais,
etc.
Mais il y a une composante en plus, c'est que c'est quelque chose qui va être transmis de génération en génération. C'est quand on dit un Rom ne va pas pouvoir s'intégrer et ne pourra jamais s'intégrer, ses enfants non plus. Donc dans le racisme, dans cette idée d'essentialisation, il y a effectivement les raccourcis des stéréotypes, on enferme les gens et on dit ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Mais dans le racisme, il y a l'idée que vous n'allez pas pouvoir en sortir. C'est-à-dire que vos descendants aussi vont rester comme ça. Et c'est ça qu'il y a de vraiment traumatisant dans le racisme par rapport à d'autres discriminations.
Éric Barbillon,
on utilise un terme en psychologie sociale qui est naturalisation, effectivement, qui est assez parlant. C'est naturel. C'est tellement naturel que ça ne peut pas changer.
En plus, c'est faux, puisque quand on étudie les sociétés sur le long terme, on voit qu'elles évoluent, que les cultures sont jamais figées. Toute culture évolue au contact d'autres cultures et elles évoluent dans le temps. Et quand on regarde aussi ce que nous disent les anthropologues aujourd'hui, c'est que les jeunes sont finalement dans leur manière de vivre, dans leur goût, plus proches d'autres jeunes qui sont à l'opposé de la planète qu'avec leurs grands-parents. Voilà, il y a aussi une mondialisation qui rapproche les manières de vivre. Et penser qu'on est dans des cultures figées qui n'évolueraient pas et qui seraient toujours les mêmes, c'est complètement...
Et d'ailleurs, l'essentialisation, c'est maintenant ce qu'on met aussi sur des différences religieuses. Les musulmans sont tous comme ça, ont tel comportement, et les musulmans ne vont pas changer, ils ne peuvent pas s'intégrer dans la société. Et c'est donc contre l'essentialisation qu'il faut lutter, surtout que c'est complètement faux.
Beaucoup de questions qui vont dans le même sens d'auditeurs. Est-ce que la situation socio-économique favorise le racisme ? Éric Barbillon.
Oui, tout à fait, de tout temps. Et là, je laisserai plutôt la parole à l'historienne. Hein. C'est de tout temps, on a vu des préjugés émerger en fonction de la société, des problématiques sociétales qu'on a rencontrées.
Carole Reynaud-Paligaud.
Il n'y a pas un automatisme absolu, mais c'est vrai que ces discours de haine et de rejet de l'autre, eh bien, ils touchent plus facilement la population quand elle est elle-même en difficulté et en souffrance. Hein. Donc, mais en même temps, ça n'entraîne pas automatiquement. C'est-à-dire que c'est ce que montre aussi Nona Meyer dans ses enquêtes de la CNCDH, c'est que quand il y a des attentats, des événements très graves, la manière dont on en parle, donc le traitement médiatique et politique qui refuse par exemple les amalgames et qui dit qu'il ne faut pas confondre un musulman intégriste et terroriste d'un pratiquement tout à fait libéral, eh bien voilà, quand il y a un discours ferme politique non aux amalgames, eh bien ça n'entraîne pas une hausse du racisme dans la société.
Allez, comment devient-on raciste ? On continue à répondre à cette question juste après. London Grammar.
I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby.
Grammar, interprété Lose Your Head.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h53, comment devient-on raciste ? C'est la question que nous posons ce matin à nos invités. Baptiste nous écrit sur notre page Facebook la chose suivante. Comment se défaire d'un sentiment de peur et de haine envers un groupe de personnes dont on a subi des attaques verbales et physiques, exclusives et répétées depuis toujours ? C'est ce qui m'est arrivé. J'aimerais savoir comment me débarrasser de ce sentiment envers une seule catégorie de personnes à la suite de multiples agressions tout au long de ma vie, toujours par des personnes appartenant à la même origine et au même groupe social. Et ce message-là, il illustre aussi la montée de l'extrême droite, etc., qui revendique ce genre de fait. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Evelyne Heyer, Carole Reynaud-Paligaud?
Il faut arriver à sortir de la catégorie, c'est-à-dire que ce n'est pas une catégorie qui l'agresse, mais c'est un ensemble d'individus qui sont complètement benêts, quoi. Et il faut, moi, c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cette bande dessinée avec Ismaël Méziane, parce que ça partait d'une colère, parce que lui, il avait subi des discriminations et des actes comme ça, et lui, il a sublimé cette colère en faisant cette bande dessinée. Donc, moi, je conseillerais à ce jeune de lire cette bande dessinée et de trouver un moyen de sublimer sa colère et de toujours se rappeler que c'est pas une catégorie qui l'agresse, mais des individus.
beaucoup de questions d'auditeurs qui nous disent existe-t-il un racisme anti-blanc dans notre pays, Carole Reynaud-Panigaud ?
Alors, pour comprendre ce qu'on nomme ainsi, il faut repartir de la stigmatisation, c'est-à-dire quand vous rangez quelqu'un dans une mauvaise boîte, avec un stigmate qui est dévalorisé, qu'est-ce qu'il peut faire ? Que peut faire la personne ? Eh bien, elle peut essayer de sortir de sa boîte, par exemple de se blanchir la peau pour rejoindre l'autre catégorie, ou elle peut aussi se replier sur sa catégorie, finalement de s'enfermer dans cette identité qu'on lui impose. Et elle peut en arriver à ériger des frontières et à rejeter finalement les autres catégories. Hein. On inverse le phénomène. Et donc là, on produit un espèce de racisme inversé. Mais dans ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, il faut quand même dire que les personnes blanches, elles ne souffrent pas de discrimination. Hein. La grande différence entre les racismes à l'égard des minorités et le racisme anti-blanc, quand on a la peau blanche, on ne souffre pas de discrimination.
Tiens, pour terminer, écoutons un extrait de Dupont-Lajoie, d'Yves Boisset, en 1975, le personnage de Victor Lanoux qui chauffe les esprits à blanc avant une ratonnade.
Putain, moi, si j'étais à sa place, je m'entends dire qu'il s'en tirerait pas comme ça avec une douleur. Allez, chouette, la police.
Police, toi.
On tue la fille de Colin, lui, il va se coucher.
Faut dire qu'avec les Arabes, il est pas allé chercher bien loin.
Bon, absolument, mais je suis absolument d'accord avec monsieur.
Il faut faire confiance à la police. Elle a sûrement ses raisons.
Oui, alors vous voulez que je vous ai dit ses raisons à la police ? Quand ils ont affaire à des Arabes, ils les ont comme ça.
Ah, ça les flics avec les Arabes, hein, ils mouillent leurs pantalons. Hein.
C'est vrai ça, Colin, quoi. C'est pas parce que les flics ont les jetons qu'on va laisser s'en tirer comme ça, le mec qui a bousillé ta môme, non ?
La police, elle a peut-être ses défauts, mais c'est pas...
C'est ça, oui, alors on va laisser les bougnoules se tirer tranquillement pendant qu'eux, ils vont roupiller, c'est ça ?
Puis s'ils se tirent pour les retrouver, sa peau, des types qui ont tous la même gueule.
Il a raison, Colin. Faut y aller tout de suite, on sait après, il sera trop tard.
Foutez-lui la paix, Colin.
Dis donc, toi, Lorital, mais c'est toi qui fais la loi ici ? Depuis quand ? Tu vas pas nous apprendre ce que c'est que des félouses, non ? Il s'est crapahuté pendant 4 mois, mon pote, figure-toi, dans les Gébelles. Je sais ce que c'est, ces mecs-là. Ils tuent rien que pour le plaisir, figure-toi.
Exactement.
Si on les laisse faire, ils moument, ils sont capables d'en tuer une tous les soirs.
Exact.
Des idées, des paroles racistes avant le passage à l'acte, Carole Reynaud-Panigaud.
Oui, là on a entendu quelques éléments de l'héritage colonial, hein, de l'expérience de la guerre d'Algérie et de cette génération qui a été marquée par des représentations, par un climat extrêmement raciste. Donc ces générations, elles sont encore là, mais elles disparaissent aussi. Donc il y a de la place maintenant pour autre chose.
Et surtout, on voit bien comment on peut manipuler des gens. Comment on peut faire émerger le racisme en manipulant tout un groupe ? Parce que dans le discours, on voit bien qu'ils ne sont pas tous d'accord. Et quand même, ils vont faire groupe.
Henrik Barbillon.
Oui, en plus dans un environnement dans lequel on a du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, le copilote qui est l'émotionnel va prendre le relais, ce qui peut conduire à terme à nourrir la troisième composante, hein, cognitive, affective et comportementale, ce qui conduit à des discriminations, ce qui conduit à des actes violents et... voilà comment on peut arriver notamment à ce type de comportement.
Attends, je veux quand même rappeler qu'on est de moins en moins raciste en France et que toutes les études le montrent.
C'est une belle conclusion et il faudra consacrer une autre émission au désamorçage des stéréotypes et des préjugés racistes. Merci beaucoup d'être venu. Merci Evelyne Ayer et Carole Reynaud-Panigaud. On peut lire avec profit « Comment devient-on raciste ?» une BD chez Casterman avec Ismaël Méziane. Merci beaucoup Henrik Barbillon. « Les filles sont nulles en maths et autres préjugés » c'est publié aux éditions Henrik B. Édition. Demain, grand bien vous fasse, loisirs.